Policier Fou, épisode sur l'actualité au 17 mai 2026, enregistré le 18. J'ai quand même réussi à limiter les choses. Pas que j'ai pas fait des efforts particuliers pour réussir à ça. J'ai eu des problèmes d'infrastructure, donc notamment le site web est tombé en panne pendant environ une heure hier, justement, fait que j'ai eu d'autres défis à régler. Ces genres d'infrastructures sont, on va dire, vieillissants, dans lesquels j'entretiens pas parce que j'ai pas beaucoup de temps dernièrement. Donc, au-delà des patchs, il y a des éléments structurants à organiser, ce que je vais faire dans les essentiellement les prochaines semaines. En tout cas, du moins, je vais réussir à reprendre un peu un sens de ma vie, en quelque sorte. Donc, je reviens du Nord 6. Super expérience, comme d'habitude, essentiellement. Des rencontres fantastiques, des conversations fantastiques avec des gens fantastiques. Et j'en sors avec des gens avec qui je vais continuer à parler, dialoguer suivant l'événement. Donc, c'est fantastique. Je crois que c'est probablement la plus belle chose que je peux obtenir. Plus beaucoup de beaux podcasts aussi enregistrés, là, mais au-delà de ça, c'est les rencontres humaines qui sont vraiment très, très, très marquantes dans cet événement-là. Donc, je suis toujours très heureux d'y participer. Et incessamment, je vais y participer également l'an prochain sur la même forme. Bref, tout ça est ultra chouette. Bref, j'aime la slog 3 au 5 juin, le 6, lequel je vais aller. Puis justement, de ces rencontres-là que j'ai faites au NordSec, il y aura peut-être des éléments ou des enregistrements qui auront lieu au 6. J'ai très, très hâte d'en savoir plus puis de pouvoir aller plus loin. Je suis vraiment très, 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 très heureux de cette situation. Le 24-25 juin, Troopers. Le 26-27 juin, le Hack. Le 19 septembre, le BISAD à Montréal. Le 1 au 3 décembre, Forum in Cyber Canada à Ottawa cette année. Très hâte aussi de voir comment on va être capable d'attirer des conférenciers étrangers et à quel point ça va être encore un contact avec des gens qui, normalement, je ne croise pas. Et 24-25 février 2027, les rencontres ont commencé. Donc, la structure est en train de se faire. Plusieurs choses intéressantes qui brassent. La majorité vont être annoncées plus à l'automne pour vous laisser l'été, mais nous, on est en train d'activer des choses. Très, très hâte. C'est super chouette. Commençons avec les nouvelles. Première section, comme d'habitude, l'intelligence artificielle. Et comme d'habitude, on va parler de Mythos, cette chose qu'on ne comprend pas trop de toute apparence. Les nouvelles la semaine dernière ont démontré le fait que on a découvert, les gouvernements japonais qui étaient encore très nerveux par rapport à ça, quand dans les faits, ils ne devraient pas être tant que ça. Le fait que, est-ce que c'est parce qu'il justement il est trop dangereux qu'il n'a pas été exposé ou il est trop coûteux comme modèle à faire fonctionner, selon les informations, on pourrait dériver effectivement. Ils ont brandé le fait que c'est trop dangereux sur le fait que c'est trop coûteux à faire opérer comme modèle, ce qui est tout à fait logique dans les considérations. Et toutes les choses qu'on entend jusqu'à présent, justement, mentionnent le coût énorme de faire fonctionner ce modèle-là, donc il va y avoir des réflexions à avoir. Et de l'autre côté, quand on met ça en perspective, les modèles comme Opus 4.6 ou 4.7 sont amplement suffisants pour trouver la plupart des problèmes qu'on a par rapport à cette situation-là. Certains chercheurs ont trouvé des CVE déjà existants dans les données d'entraînement de Mythos. Puis c'est intéressant, pas parce que, ça vient un peu disqualifier le fait que certaines vulnérabilités qu'il a trouvées, mais de l'autre, en même temps, ça démontre à quel point ce modèle-là vient changer la perspective qu'on a sur la façon que le code évolue dans le temps. Et dans certains cas, il y a des vulnérabilités qui se sont retrouvées à être réintroduites par des humains en cours de chemin, qui avaient été corrigées et remises. Donc, une réflexion plus globale à avoir sur la sécurité, notamment dans ce que c'est dans l'open source principalement, mais de voir comment l'évolution se fait et comment celle-ci peut avoir des effets par rapport à tout ça. Curl et les mainteneurs de Curl justement sont très dans cette perspective-là, que c'est un gros coup marketing aussi qui rajoute aussi. Ça fait là qu'ils ont juste trouvé une vulnérabilité, mais c'est un des codes les plus, je pense, surveillés et testés au monde. Donc, en même temps, toute chose étant relative, oui, effectivement, c'est un stunt publicitaire, mais en même temps, Curl est un des projets open source les plus frappés qu'on a dessus. Puis finalement, la dernière chose sur Mythos, puis justement, ça m'a donné un peu de crédit sur la capacité de ça, c'est le fait d'avoir trouvé une faille dans le kernel M5 en 5 jours. Mais si on retrouve 5 jours de recherche par Mythos, le coût, il est énorme pour obtenir ce genre de choses-là, mais on est capable de voir des éléments qui permettent d'aller plus loin. Cela étant dit, ça revient aussi souvent sur ce genre de choses-là sur lesquelles je tape. Les AI vont trouver des vulnérabilités que les humains n'auraient jamais trouvées autrement parce qu'ils sont capables de trouver des chemins non standards, et ça revient justement là qu'il faut les utiliser effectivement pour ne pas en mettre abusivement. Ce n'est pas parce que les AI ont la capacité de trouver qu'ils vont le trouver chez les malveillants. Donc, de trouver de revient pour balancer et de ne pas partir le fait que c'est une grande panique, en tout cas du moins que ce qui semble actuellement la grande panique, elle n'est pas justifiée à bien des égards, au-delà du fait qu'il va falloir intégrer le AI dans nos pratiques, et c'est tout à fait normal. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire d'autres représentations de ce côté-là et ne pas justement partir en panique pour rien. Bref, sous-section suivante, deux nouvelles. La première sur la santé. La première, le fait que l'Ontario a analysé les effets d'usage du AI dans la prise de notes par les médecins. Puis pour se rendre compte qu'il y avait énormément de problèmes qui faisaient référence à des choses qui n'existaient pas, des prescriptions qui n'existaient pas. Bref, il y a un problème de qualité très, très important. Puis quand on considère que la santé peut avoir des conséquences très importantes sur la vie humaine par la suite ou la qualité de vie qu'on a après, c'est important de qualifier. Et la conclusion du rapport, entre autres, c'est justement de s'assurer de bien tester les modèles avant de les autoriser. Parce que clairement, ça n'a pas été fait en Ontario. On a beaucoup de domaines qui ont des conséquences sociales et humaines très importantes. Ça serait très important justement de mieux qualifier l'usage de ces outils-là pour que ça soit dans la portée et que ça n'ait pas de conséquences néfastes. On le voit dans d'autres domaines aussi que très publiquement, il y a des ratées importantes par rapport à l'usage du AI. Donc, ça serait important de se calmer un peu par rapport à tout ça et de prendre les bons outils pour les bonnes choses et éviter de mettre en danger, dans ce cas-ci, les usagers du système de santé. J'imagine qu'au Québec, ça va être la même chose. J'imagine qu'en France, ça va être la même chose, cette préoccupation-là. On va aller plus vite, mais en même temps, aller plus vite, est-ce qu'on réduit la qualité? Ben, c'est un peu ça aussi pour... Il faut commencer à remettre en perspective. Bref, deuxième nouvelle, cette session-là, elle est beaucoup plus triste. Puis il y a beaucoup de questions à se poser sur ça, justement. Le fait qu'un adolescent se serait intoxiqué à le fait que ChatGPT l'aurait incité à prendre une série de médicaments qui étaient dangereux pour lui, puis comme mené jusqu'à la mort. Et essentiellement, ce qui est très triste, deux choses là-dedans. La première, c'est que le fait que les gens, les jeunes, croient que le AI a la connaissance, ce qui est complètement faux. Puis on revient souvent à ça, ça n'a pas de connaissance. Ce n'est qu'un modèle statistique. Ce n'est pas parce que ça te parle que c'est intelligent. Il faut enlever ça de la tête des gens, donc sensibiliser. Et essentiellement, dans ce cas-ci, c'est une poursuite qui a amené ça dans les nouvelles sur le fait que les parents poursuivent OpenAI pour cette situation-là. Ce qui est, selon le modèle américain, la façon de réguler l'usage de ce genre d'outils-là. Donc, c'est correct. Par ailleurs, c'est le modèle américain attend toujours des éléments catastrophiques avant d'appliquer des mesures préventives. Dans ce cas-ci, ça va poser des mesures préventives. Et là, il y a plusieurs éléments à voir. Puis là où je ne sais pas, dans les faits, il faudrait éduquer les gens davantage, et c'est contraire à la volonté des compagnies de AI d'une adoption massive et d'usage massif, justement comme des pushers de drogue qui veulent nous habituer et ensuite vont commencer à augmenter les prix. C'est un peu dans cette perspective-là qui fonctionne à l'heure actuelle. Donc, on a un problème d'incitatif qui ne les incite pas à faire mettre les avertissements nécessaires et éduquer les gens à faire un bon usage de ce que c'est l'intelligence artificielle. Donc, on a un peu ce problème-là. Et en même temps, ces compagnies-là, puis là, c'est pour ça qu'il faut être tenu responsable dans un cas d'une poursuite comme celle-là, pour qu'ils mettent en place des mesures préventives, s'assurer que le modèle où il y a des safeguards dans le modèle ou des guardrails, peu importe comment on peut les nommer dans les circonstances, puissent intervenir pour éviter que ce genre de situation-là arrive, pour peut-être déconnecter un peu les gens puis les ramener un peu au réel et de consulter des vrais professionnels de la santé quand il y a des des situations complexes comme ça se présentent et justement pour pas amener à des situations tristes comme il est arrivé. Donc, bref, si vous avez des gens autour de vous, essayez de diffuser la nouvelle que c'est bien, mais qu'il faut limiter l'usage, comme beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Tout ce qui est du vibe coding, ainsi de suite, il y a beaucoup d'éléments qui sont intéressants dans le cycle de nouvelles la semaine passée, notamment le fait qu'on est très dans la transformation du métier de programmeur vers un métier de superviseur essentiellement. Le problème à ça, c'est que là, il faut, pour devenir superviseur, il faut avoir de l'expérience pour lire le code, pour surveiller ce que les intelligences artificielles font. Donc, on a un chemin à explorer de ce côté-là et justement de trouver une structure pour amener les juniors à prendre cette expérience-là et les amener à être capables d'intervenir correctement quand c'est nécessaire pour justement être capable de lire le code et de comprendre ce que l'IA nous garoche. Et à l'heure actuelle, le volume de code que l'IA garoche ne nous permet pas facilement d'agir comme humain. Donc, on est comme dans un paradoxe où on veut produire plus de code, mais on n'a pas plus d'humains qui sont capables de réviser le code. Puis ensuite, on va utiliser des outils comme Mythos, par exemple, pour réviser le code. Donc, on est comme dans un drôle de paradoxe, si on veut. Mais en même temps, c'est un peu comment les structures humaines fonctionnent. Donc, peut-être que c'est le chemin à prendre. Puis finalement, il y a une étude qui a été faite sur le fait que l'usage d'incitatifs ont démontré que, disons, on payait le bon comportement des développeurs en cybersécurité pour la qualité du code, ça avait un effet direct sur la qualité du code qu'il y avait. Fait que c'est un élément intéressant. Puis c'est probablement, de toute façon, les machines réagissent de la même façon. Donc, de voir comment on peut amener ça un peu ailleurs. Autre sous-section, hallucination, il y a beaucoup de choses qui sont troublantes. Le fait que des faux modèles qui sont sur Hugging Face sont capables de s'insérer, la capacité de générer des downloads de modèles toxiques pour les gens, donc des infectés. Les malveillants n'arrêtent pas de... sont merveilleux pour ça. C'est infini ce qu'ils vont explorer. L'autre, c'est comment les hallucinations causent des problèmes de sécurité. L'article amène plusieurs facettes intéressantes, c'est-à-dire le fait que ça crée des faux, ça déclare des faux problèmes, ça voit pas des problèmes, ou ça crée une panoplie de faussetés ou d'éléments plausibles. Et on revient encore sur le fait que, comme pour la santé humaine, il faut vérifier ce que la machine fait parce qu'elle n'a pas la vérité, elle ne fait dire que ce qui est plausible. Donc, en cybersécurité, ça nous amène des faux incidents, ça amène des faux risques, des fausses vulnérabilités. Donc, il faut tout trier ça et prendre des gestes concrets par rapport à cette situation-là dans laquelle on peut devoir œuvrer. Et finalement, dernière nouvelle à cette sous-section-là, Microsoft est capable de générer des lignes de commande et de la télémétrie synthétique pour aider à pratiquer les modèles à l'aide du AI. Donc, c'est intéressant de voir qu'on va être capable de tester les équipes avec du code synthétique. Le problème encore, on revient sur est-ce que c'est du code plausible, est-ce que c'est valide pour presque pour de vrai. Ça sera à voir, mais c'est intéressant comme constat qu'on est capable de pouvoir peut-être entraîner. Puis c'est un peu au niveau, en tout cas du moins pour la réponse à l'incident, d'amener les gens à se pratiquer, ce qui est très important. À contrario des développeurs, donc il faudrait trouver peut-être des stratégies pour réussir à faire ce genre de choses-là. Dernière sous-section, le fait de tout ce qui est massif à l'heure actuelle, il y a beaucoup de titres d'articles qui sont très dans le massif, c'est pour ça que j'ai nommé ça comme ça. Incidemment, le Google a mentionné le fait qu'ils ont intercepté une attaque dite massive ou industrielle faite par le AI. Donc, on est toujours dans un contexte un peu de grand titre. Oui, il y a des attaques qui sont faites. Oui, les attaquants l'utilisent. C'est à géométrie variable. J'ai sur le terrain, je n'ai pas vu tant que ça. Enfin, je n'ai pas tant d'expérience qui me permet de qualifier quoi que ce soit. Par ailleurs, je n'ai pas vu tant que ça, au-delà du fait que c'est des raffinements de base. Puis ça ressemble un peu à ce que j'ai dit dans les semaines précédentes. C'est-à-dire que oui, mais pas tant. Ils vont l'utiliser pour certains cas particuliers où certaines stratégies vont améliorer. Mais comme pour les développeurs, comme pour toutes les autres choses, l'expérience a beaucoup d'impact. Puis un peu comme ce qui a été mentionné sur les forums des méchants, le fait que le SOP AI causer problème. C'est la même situation. Donc, on fait affaire à des acteurs quand même très, très puissants par rapport à ça. Ce qui vient par la nouvelle qui suit par à ça, ben, effectivement, les attaquants utilisent beaucoup de choses comme on fait à l'entreprise pour automatiser, pour améliorer, pour mécaniser leur travail, mais on ne va jamais beaucoup plus loin que ça. Mais ils ont moins de contraintes, moins d'éléments qui les limitent dans leur usage, contrairement aux entreprises où on est lent et on se traîne un peu les pieds, puis on n'a pas le focus nécessairement sur les bons incitatifs. Puis c'est probablement ça qui nous nuit le plus. Le problème qu'on va avoir avec le AI, c'est l'agentique, au niveau sécurité, naturellement. Essentiellement, puis ça fait plusieurs fois que j'en viens, puis là, c'est un autre bel article qui remet ça en lumière, le fait qu'on ne maîtrise pas l'objet, on n'a pas de visibilité, on ne comprend pas ce que c'est. Et donc, incidemment, ça amène des problèmes de sécurité. Le fait qu'on n'a pas le cadre de contrôler les privilèges correctement, qu'on lui donne trop d'autorité, bref, c'est un problème, donc chose à avancer. Hugging Face, il y a des packages quand t'es Weaponize, ça revient un peu à l'autre article, sauf que celui-ci met l'emphase sur le fait que c'est un des fichiers seulement qui est changé et que le output des modèles est envoyé à l'extérieur dans ce cas-ci. Fait qu'on est capable d'exporter. C'est un autre avenue, fait qu'on en va en avoir de plus en plus de choses comme ça. Hugging Face n'est pas nécessairement un lieu de grande confiance, surtout si on download des modèles qui ne sont pas produits par les compagnies dans lesquelles ces modèles-là normalement sont faits. Donc, on s'expose à des problèmes. Il y a des solutions, on avait parlé notamment avec Nicolas Bédard de Palo Alto, que les outils comme de Palo Alto notamment permettent de scanner, vérifier s'il n'y a pas de choses toxiques dans leur code. Et il va falloir, comme n'importe quel autre programme malicieux, vérifier les codes, les choses comme ça. Donc, d'avoir des logiciels de vérification. Donc, c'est une autre façon qu'on va faire évoluer les antivirus. Ça, c'est un papier de recherche. La nouvelle suivante, c'est est-ce que les LM sont capables de générer une attaque de bout en bout? Puis c'est un peu en contrario de ce que Google a ramené. Et des chercheurs ont fait des tests, voire pour tester du phishing, par exemple, comment ils étaient capables de générer. Ce qui sort de leur conclusion, c'est que pour des spectres très précis, donc faire des beaux courriels ou faire des éléments circonscrits, ça va très bien, ça leur donne un avantage très important. Mais quand on va dans un scénario élargi, c'est-à-dire complexe et avec plusieurs ramifications, les modèles tombent rapidement inefficaces ou beaucoup moins efficaces que des attaquants humains. Donc, dans l'occurrence, on a encore un certain avantage. Donc, il y a encore de la recherche à faire, voir comment ça va se faire, mais les méchants vont trouver des façons de faire pour réduire leurs coûts et augmenter leurs profits, parce que c'est ça leur modèle d'affaires. Donc, quand on oublie ça, bien, on met du temps sur des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Article sur le fait que certaines tâches de cybersécurité vont être remplacées par le AI, oui. Beaucoup de gens se préoccupent de cette situation-là, ce qui est vrai. Par ailleurs, c'est des tâches de bas niveau qui vont se retrouver être remplacées, ce qui est mécanisable facilement. Le reste, c'est toutes des choses qui nécessitent beaucoup de connaissances humaines. Donc non, on ne sera pas remplacé prochainement. Donc c'est bien de voir. Puis l'article en fait une bonne référence aussi. Et moi, pour ce qui me concerne, je ne vois pas de fin à mon type de travail. Comme pour beaucoup de gens qui m'entourent en cybersécurité, je ne vois pas de fin à leur travail. De fait qu'ils doivent gagner l'expérience, qu'ils doivent utiliser le AI pour améliorer leur performance. Mais en même temps, il n'y a pas de bref, je vois pas, puis c'est intéressant de le voir comme ça. Une dernière nouvelle de cette section-là, Threat Modeling avec Opus 4.7. C'est intéressant de le voir dans la perspective qui a été amenée par Shustak, notamment dans ce cas-ci, qui est un spécialiste en modélisation de menaces. Donc, de le voir dans cet angle-là et avoir qu'il y a un certain nombre de limites importantes encore selon son approche que lui a faite. Autre section, la guerre. Juste une nouvelle, c'est l'Iran utilise des mosquitos, des petits bateaux, pour réussir à prendre le contrôle du canal d'Hormuz. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle-là, et pas parce que je veux mettre sur un piédestal les stratégies iraniennes en l'occurrence, Mais c'est de voir à quel point ces façons de faire-là, ces SWARM, par exemple, vont être réutilisées en cybersécurité aussi, où on doit s'inspirer de ces moyens-là, surtout dans des contextes asynchrones comme la guerre en Iran est un bel exemple, de voir à quel point de petits objets nuisibles sont plus efficaces que de gros porte-avions pour avoir un effet sur la sécurité. C'est aussi vrai en sécurité kinétique, comme on voit dans cette guerre-là, comme en cybersécurité, comme on voit d'autres facettes. Donc, de s'inspirer, c'est juste malheureux qu'on se retrouve dans cette situation-là, puis ça crée des dommages très, très importants à la société, en tout cas notre modèle de vie à l'heure actuelle. Mais bon, bref, c'est une situation dans laquelle il faut au minimum s'inspirer et justement préparer qu'on pourrait affronter ce genre de situation-là à l'avenir, en cyber notamment. Souveraineté, deux petites nouvelles. Le FCC va étendre, ou en tout cas va lever les restrictions pour les routeurs étrangers pour qu'au moins les drones, pour que les correctifs puissent être disponibles jusqu'en 2029, parce qu'il y a une inquiétude sur les effets des correctifs. Mais encore, cette nouvelle-là, globalement, j'amène vraiment dans la souveraineté, parce que c'est un effort de souveraineté américaine, ce qui ils en font beaucoup, les Américains, contrairement à ce qu'on pense. Et de cet effort-là, on voit qu'ils veulent chasser tout ce qui est fait en Chine, par exemple, dans ce cas-ci. Fait que c'est plus de la pression commerciale qui est faite plus que du... bref. C'est le modèle, mais ça donne une fenêtre de temps pour permettre de continuer à avoir des correctifs. L'autre, c'est un site qui fait la liste des services américains et européens pour de l'info nuagique, donc toutes les capacités de chacun des fournisseurs, c'est très intéressant. Et l'élément que je trouve intéressant de ce tableau-là, c'est la présence de cloudeurs finlandais. Et ça, c'est important pour la position québécoise et canadienne, laquelle on a été longtemps un peu paresseux, c'est qu'on s'est laissé porter par les Américains, et on aurait la capacité, donc comme les Finlandais, d'avoir des services canadiens et québécois qui offrent des services de qualité sécuritaire et qui nous permettraient d'être souverains, essentiellement dans les circonstances, sans se débarrasser des autres, sans fermer la porte aux autres, parce que c'est un écosystème varié. Il faut utiliser justement la variété de cet écosystème-là, et celui-ci doit nous servir. Mais on aurait la capacité d'avoir des services équivalents ici si on y mettait un peu d'énergie et qu'on arrêtait d'en parler et qu'on agissait essentiellement. Bref, section suivante, privacy, la loi C-22, ben le projet de loi C-22 fédéral qui est une version refaite de la loi C-2, un projet de loi C-2 qui n'a pas mené à rien, qui était essentiellement la surveillance des frontières. Cette loi-là a une portée très, très grande. Je trouve ça un peu triste qu'on ait ce genre de loi-là au Canada qui émane, comme on les voit dans d'autres pays européens ou américains, notamment. Le fait qu'ils sont en train de mettre en place des moyens qui vont permettre de casser le chiffrement des systèmes de bout en bout. Notamment, Signal a envoyé une communication disant qu'il allait sortir du Canada tant qu'à... S'il était dans une position où il devait casser le chiffrement. La loi est suffisamment floue pour laisser place à l'interprétation d'un bord ou de l'autre, en l'occurrence, mais c'est un peu plate qu'on voit arriver au Canada aussi des lois qui sont aussi anti-privacy, donc qui ouvrent la porte à des situations qui ne sont pas positives pour personne. Puis là, c'est intéressant parce qu'on a des lettres des Américains notamment, ou des représentants des Américains, qui s'inquiètent de ce type de loi-là. Et c'est intéressant parce qu'eux-mêmes ont des appétits à enlever le chiffrement, donc c'est un peu fascinant. Mais c'est un drôle de débat parce que je comprends l'objectif. Puis on vit dans cet univers-là, on veut protéger. Puis comme citoyen, je veux que l'État régalien me protège. Puis c'est un peu, pour moi, mes attentes par rapport à ça. Mais c'est juste que où je suis capable de tolérer qu'il rentre dans ma vie privée. Peut-être pas de temps loin, puis voir comment... Puis je le dis souvent, s'il n'y a pas des moyens alternatifs pour arriver à la même chose sans devoir ouvrir si grandement que ça les éléments de vie privée. Bref, Google exige d'envoyer des SMS pour activer les comptes. C'est une nouvelle concomitante avec un autre qui dit que maintenant les comptes sont réduits à 5 gigs et non plus 15 comme avant. Puis pour atteindre 15, il faut mettre un numéro de téléphone activé. Fait qu'il y a un effort de Google de réduire l'usage toxique de ces comptes, ce qui est tout à fait normal. Mais en même temps, il y a Un volet invasion à la vie privée là-dedans, puisque là, c'est son numéro de téléphone qui nous identifie relativement uniquement et qui nous permet de nous tracer sur le en géolocalisation aussi. C'est des questions à se poser, à savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça. MyOD, juste sur la base du code VIN, de ce qu'on peut voir sur le pare-brise, permet d'identifier la localisation des autos. C'est comme un problème de design. Donc, probablement un semi-vibe codé, méconnaissance des principes de sécurité. Et on est toujours dans ce contexte-là où on a présomption que les gens qui sortent des écoles ou les développeurs en général sont formés en cybersécurité ou ont une connaissance suffisante. La réalité est non. Mon expérience m'a dit que non aussi. Quand ils vont être challengés, généralement, ils vont dire « Ah oui, telle affaire, ils vont le faire. » Mais s'ils n'ont jamais challengé, ils ne le feront pas ou le feront rarement. Donc, c'est un peu le contexte comme ça de ramener. Puis c'est un peu fascinant qu'un fabricant d'auto de luxe n'ait pas fait ce genre de vérification de sécurité qui, de toute apparence, est élémentaire. Donc, bref, le Texas poursuit Netflix sur des pratiques de surveillance. L'article est très amusant parce qu'il relate des choses qui sont connues avec Netflix depuis longtemps. La machine d'analyse de données de Netflix, elle est complètement folle. Qu'il partage avec l'extérieur, c'est pas étonnant. Et ensuite, tout le volet jeunesse aussi là-dedans qui, malgré tout, puis permet... Bref, c'est très perplexant, mais en même temps, c'est bon, il faut que les Américains se réveillent. Puis surtout que ça vient du Texas, qui n'est pas nécessairement une des places qui défend tant que ça la vie privée. Mais bon, bref, prenons tout ce qui passe pour améliorer la posture de la vie privée et de ralentir l'invasion extrême que les grandes compagnies américaines puissent avoir sur les informations. Bref. Section suivante, la loi. La première, c'est Sony qui a perdu un procès pour faire porter la responsabilité au niveau droit d'auteur. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que la portée de ça, c'est retirer la responsabilité du transporteur et le redépose sur celui qui a posé le geste. En soi, c'est pas mal, mais ça limite la capacité de ces compagnies-là à poursuivre. On revient toujours sur le fait que la loi sur les droits d'auteur sert à protéger les créateurs pour les aider. En même temps, on est rendu avec des grandes corporations qui mettent en arrêt de ça, donc il y a beaucoup d'intérêts financiers. Donc cet équilibre-là est difficile à obtenir, mais dans ce cas-ci, ils vont devoir aller directement. Donc c'est pas la responsabilité des fournisseurs Internet d'agir de façon très active dans la défense des droits d'auteur. C'est un peu ce qui en retire. Et l'Europe veut s'attaquer aux éléments d'addiction qui sont avec les TikTok et Instagram de ce monde qui permettent ou qui font que les jeunes se sentent pris dans ces systèmes-là. Et donc, ne sont pas capables de s'en sortir. C'est dans la même foulée que les lois sur l'identification pour s'assurer que les médias sociaux à un certain âge et ainsi de suite. C'est intéressant, ce genre de choses-là. J'ai hâte de voir où ça va nous mener. Ça amène des réflexions, puis je suis d'accord avec le fait que ces compagnies-là ont poussé à l'extrême les façons de fonctionner du cerveau humain. Donc, pour les aider et pousser les gens à aller de façon de plus en plus importante vers l'usage de ces services-là, donc sans limite, et d'utiliser au maximum les capacités, les biais du cerveau pour en arriver là. Donc, je pense que le législateur doit intervenir, effectivement. Voir ce qu'on va faire, ça va être intéressant. Bref, section suivante, rouge, sous-section faille du jour. Il y a eu énormément de petites failles qui sont sorties cette semaine, petites et dont certaines très importantes. Je commence avec le fait, c'est Krabs qui mentionne essentiellement le fait qu'on est rendu dans un moment où des fois d'installer le correctif nous amène dans une situation pire que ce qu'on était avant. Donc c'est de cette constat-là qui est inconfortable, mais c'est à voir. Mulvad, dans la configuration actuelle, ne protège pas bien l'identité en arrière du VPN, donc changer correctif, allez voir. Fracnesia, une nouvelle vulnérabilité Linux sur le type de defag, flag, mais c'est pas encore assez critique, mais pas. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir un accès local, mais quand même, il faut corriger avec des modules kernel. Faille dans BitLocker qui semblerait, selon les analyses actuelles, laisserait présager que c'est un backdoor qui touche Windows 11, touche pas Windows 10 et touche Windows 2019 et 2025 serveur 2019-2025. Donc, ils sont capables, mais il faut quand même avoir un accès physique. Donc, ça limite un peu. Donc, mais ça, c'est très, très étrange. Au moment où, en tout cas, bref, où j'ai lu, il n'y avait pas de réponse de Microsoft. Donc, on est dans des hypothèses. Mais la façon que c'est fait est vraiment dans un type de type backdoor parce que c'est assez simple à exécuter. Mais bon, bref, c'est à voir. Et dernière nouvelle, cette sous-section-là est essentiellement avec la quantité de vulnérabilité Linux qui apparaît, et probablement, mais pas probablement, notamment causée par le AI, par la recherche avec du AI. Il serait peut-être temps de trouver une façon de fermer certains services ou modules à l'intérieur de celui-ci. J'avais déjà mentionné que je recompile en statique mon carnet justement pour éviter ce genre de situation-là. Et ça depuis très longtemps. La plupart des gens ne le font pas pour beaucoup de bonnes raisons, mais ça serait peut-être un avenue à réfléchir, à voir comme ça. Puis finalement, une faille dans NGINX qui date de plus de 18 ans, qui est encore en place, qu'il faut corriger. Sur section, tout ce qui est vu est nouveau, le device code phishing est en pleine croissance. J'en avais parlé avec des gens de Sequoia, avec Evil Tokens notamment. Donc, de voir que ça continue, c'est en croissance, ben, c'est tout à fait normal quand ils attaquent une nouvelle façon ou détectent une nouvelle façon, ils vont l'utiliser abondamment. Donc, c'est un exemple. Et là, ce qui est drôle, c'est Microsoft, parce que sur les mots de passe stockés dans Edge, dans mémoire pour Edge, change de stratégie. Autant la semaine passée, j'avais mentionné, j'ai pris la nouvelle juste parce que je trouvais qu'on s'énervait un peu le poil des jambes pour rien, du fait que de toute façon, c'est très compliqué de protéger le navigateur parce que celui-ci vit dans l'écosystème de l'utilisateur. Donc, en ce moment, il devient très difficile de faire ça, même si les autres, Edge était le seul dans tous les navigateurs de type Chromium qui ne protégeait pas les mots de passe en mémoire ou la façon qui était faite. Bon, c'était comme ça. Et Microsoft a dit, c'est pas grave, on l'accepte. Puis tout à coup, pouf, il change de stratégie. Et ça, je trouve ça un peu malheureux comme concept, pas parce que Microsoft avait tort ou raison sur l'implantation de cette stratégie-là, mais c'est le fait de balayer de la main tout de suite en partant, non, c'est normal, et de backtracker ensuite comme ils font. Là. Fait que maintenant, on est dans un état de communication qui est, à mon sens, malsain. Parce que s'il y a une erreur de design, ce qui de toute apparence a l'air d'être le cas, ben, il faut juste l'admettre, puis le faire, puis passer au suivant, justement pour arrêter de gaslighter tout le monde, dire non, c'est pas grave, puis de jouer comme ça, parce que beaucoup de gens ne sont pas suffisamment éduqués en cyber. Et ces doubles messages-là les confondent, le vu dans d'autres circonstances plus massives où le double message vient contrer la qualité du message final qu'on veut atteindre. Donc, je crois que ce n'est pas une bonne stratégie de communication qui est prise en l'occurrence. Et que s'il y avait eu une erreur ou s'il y avait eu une analyse à faire, tout simplement, Microsoft aurait juste dit ben, on va analyser la situation, on va regarder et on va agir et non de réagir parce qu'il y a eu espace médiatique puis change de situation. Fait que, bref, mais dans tous les cas, je reviens à ce que je disais l'autre semaine, le fait que les mots de passe sont en mémoire n'est pas une vérité de la fin du monde. C'est compliqué de sécuriser un navigateur parce qu'il vit dans l'écosystème de l'utilisateur. Google fait énormément d'efforts avec les limites que ça a. On l'a vu justement la semaine dernière, ils ont été capables de casser certains volets spécifiques. Mais bon, bref, cela étant dit, c'est ça. sous-section suivante, usurpation. C'était découvert qu'avec GitHub, on est capable de spoofer assez facilement les commits. Il y a certaines recommandations pour augmenter, mais ça devrait se faire par défaut essentiellement, et donc notamment de signer les commits qui sont faits, parce que sinon on est capable d'impersonnifier n'importe qui, parce qu'il n'y a pas de vérification qui est faite sur certains éléments dans des fichiers. Bref, c'est assez particulier qu'on se trouve encore des choses comme ça. N'étant pas un grand utilisateur de GitHub, je ne sais pas s'il y a une normalité là-dedans, ou il n'y a pas, c'est juste parce que c'est un vieux problème qui a été transporté dans le temps. Pasqui avait eu, puis j'ai attrapé aussi sur d'autres podcasts la semaine dernière, puis il parle le Pasqui, non, c'est pas si bon que ça, machin. L'essentiel, en tout cas, bref, ce qui est dans cet article-là, mais que j'ai entendu aussi, c'est que le Pasqui par lui-même n'est pas suffisant, c'est vrai. Parce que si vous avez des moyens autres, comme des downgrades d'attaque, c'est-à-dire descendre dans des moyens plus bas d'authentification, effectivement, parce que vous êtes capable de contourner le Pasqui, Le pasquis, le problème, c'est le fait que vous êtes capable de contourner le pasquis ou trouver une autre façon de s'authentifier sans le pasquis, essentiellement pour contourner un peu la logique. Le device code est un exemple de cette stratégie-là. Mais bref, il y a des façons de le bloquer. Ça serait très important de déployer et que les moyens alternatifs ou de contournement du pasquis ne soient pas facilement disponibles aux utilisateurs ou ils doivent être interceptés par des humains qui vont être capables de vérifier de façon suffisante si la personne qui demande le changement est autorisé. Et ça l'amène à la nouvelle suivante, justement, le fait que, en bien des cas, l'ingénierie sociale est un moyen assez efficace, encore efficace pour réussir à faire changer les mots de passe, à prendre contrôle des comptes, à justement changer le MFA ou le passkey dans ce cas-ci, et de contourner les contrôles. Donc, s'il y a un passkey sur un compte, par exemple, pour prendre la nouvelle précédente, ce passkey-là ne doit pas être contourné d'aucune façon. Et à moins d'un incident critique, je ne pense pas qu'il y a rien qui justifie le fait de passer à côté de l'usage du passkey et de mettre en place des mesures conséquentes par rapport au passkey. Donc, c'est intéressant de voir que ces vieux chums d'attaque-là sont encore très vivants. Je suis un peu triste aussi qu'ils soient encore très vivants parce que le fait du downgrade d'attaque, ça fait longtemps qu'on en parle et on revient avec ces éléments-là, avec le passkey. Parce que clairement, le niveau de littératie cyber n'est pas très élevé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont tombé dans la marmite, qui ont tombé pas dans la marmite, mais dans l'univers cyber sans avoir les a priori nécessaires pour comprendre et avoir toute l'historique qui nous mène où ça nous mène à l'heure actuelle. Parce que essentiellement, je parle, j'ai 25 ans d'expérience, donc j'ai tout ce 25 ans-là. Et de retransmettre ça à des personnes qui commencent dans le domaine, c'est un peu difficile et pas facile. Mais bon, bref. Podcast me sert notamment à ça, mais on ne peut pas arriver du jour au lendemain d'avoir ce 25 ans d'expérience-là. Et ce qui a fait, si je fais un petit croche là-dessus, ou quand j'avais début vingtaine, une énorme frustration parce que j'avais la connaissance, mais pas l'expérience, d'être confronté à des situations dans lesquelles j'étais un peu tassé sur le côté, justement parce que j'avais pas l'expérience. Et maintenant, je suis rendu de l'autre côté, je comprends, excusez, de pourquoi l'expérience, parce que j'ai du vécu et mon vécu me permet de mettre en contexte des choses que j'étais pas capable, le jeune, moi énervé, n'était pas capable de comprendre à ce moment-là. Donc, c'est important de trouver. Et puis, c'est important de trouver une stratégie pour justement basculer cette connaissance-là que tous les vieux routiers ont, de basculer sur les générations qui montantes, qui vont nous remplacer et qui puissent justement avoir toute cette perspective-là et cette capacité-là de ne pas refaire les mêmes erreurs avec comme le gars du passé. Bref, Taïwan est encore sous le choc de l'attaque sur son système de train. C'est une attaque qui était quand même assez simple avec des systèmes radio Tetra qui étaient vulnérables d'ailleurs, que les clés n'étaient jamais changées, qu'il n'y avait aucun problème. Fait que des acquis comme ça, surtout dans les systèmes industriels, le système ferroviaire en est un exemple. Ce n'est pas le premier exemple de système ferroviaire que je vois qui succombe à ce genre d'attaque-là. Il y a beaucoup de gens qui ont notamment déclaré, j'avais au DEF CON il y a 2-3 ans, en tout cas, bref, avant que j'arrête d'aller aux États-Unis, je savais mentionné sur le service de train de l'Espagne, il avait été comme tassé, c'était pas grave. À terme, je pense que c'est dangereux de pas écouter ces gens-là qui veulent déclarer. Là. Je ne dis pas que la personne qui avait déclaré les choses sur le système ferroviaire de l'Espagne l'a bien fait, une bonne conversation, puis peut-être voulait un peu de publicité. Ça se peut. Je mets pas ça en contexte, mais historiquement, on a toujours un modèle où les déclarations qui sont faites sont toujours rejetées par les compagnies qui sont touchées par ça. Donc, de cette habitude-là, il faudrait revenir à une habitude d'humilité et d'écoute, justement, parce que dans un cas d'un système ferroviaire, ben, s'il y a des problèmes ou il y a des trains qui se foncent dessus ou peu importe ce qui se passe, ben, il y a de la gravité, c'est important. Puis je pense qu'il y a un peu d'introspection à avoir sur on s'en va. Et je ne dis pas que les gens en cyber sont des bons communicateurs, on est de très mauvais communicateurs, mais bon, avec le temps, ça tend à s'atténuer, donc d'ouvrir cet espace-là de communication, justement, pour qu'on ait ce type de situation-là de problème de cybersécurité. Bref, les robots Unitri sont ultra faciles à prendre en contrôle, il faut juste la clé, il faut juste l'application. Et être à proximité avec du Bluetooth pour prendre contrôle, justement pour le faire dévier. Et à ça vient le fait qu'il envoie énormément d'informations en Chine, donc il y a une certaine préoccupation à avoir. Beaucoup de systèmes d'e-commerce, qui sont des systèmes d'imagerie médicale, sont exposés sur Internet ou de façon non sécurisée. Ça soulève le fait que le système de santé est souvent sous-financé pour protéger adéquatement et que les compagnies qui font ces logiciels-là ne prennent pas la peine non plus de sécuriser suffisamment. Les lois américaines n'ont pas aidé à monter le niveau de sécurité des équipements suffisamment pour que ça arrive à quelque chose. Au Canada ou en Europe, non plus, on n'a pas réussi à mettre les incitatifs suffisants pour faire basculer les habitudes des fabricants. Donc, on se retrouve avec des systèmes qui sont vulnérables et les hôpitaux ne sont pas plus d'incitatifs pour mettre la sécurité en place. C'est très compliqué, changer ces systèmes-là. C'est très compliqué, mais c'est un peu décevant de voir autant de systèmes comme ça aussi vulnérables, aussi exposés. Surtout que les informations qui sont contenues sont très sensibles. C'est de l'imagerie médicale, c'est très, très, très sensible. Autre nouvelle, les câbles fibre-optiques permettent de faire de l'écoute sans laisser de traces. Je trouve ça intéressant parce que le titre laisse penser que c'est des câbles qui sont sous-marins, de fibre-optique qui sont utilisés. Et non, c'est des câbles qui sont mis dans une salle. La vibration permet de décoder la conversation qui a lieu sans avoir un micro ou tout autre équipement qui laisse des traces dans ce cas-ci. Donc, c'est très intéressant de voir comment cet élément-là fonctionne et permet de justement faire de l'écoute. On n'arrête pas le progrès. Le hacking de firmware de disque dur, c'est intéressant juste parce que le fait que les personnes ont décidé de prendre et de renverser les firmware pour détecter des commandes non divulguées par les fabricants, des passe-droits par les fabricants et plein d'éléments comme ça. Quand d'autres sont mis en perspective, toutes les autres nouvelles qu'il y a eu la semaine dernière, le fait qu'il y a des codes cachés qui permettent d'ouvrir, donc si on prend le code de BitLocker par exemple, sous réserve que Microsoft confirme ou informe, bref, ce qui se passe avec ça ou corrige le problème, ce qu'on va voir dans les prochains jours, ça va. Bref, j'espère qu'il va y avoir une correction et une histoire qui se tient. Mais bref, de voir dans les disques durs, on a plein de petits passe-droits, de facettes comme ça qui existent. Bref, c'est intéressant dans cette analyse-là. Fait qu'elle est, un petit peu de misère en ce lundi. Peut-être que j'essaie de parler effectivement trop vite parce que j'ai tellement de nouvelles à passer. Dans la nouvelle de cette section-là, les experts ont confirmé que Fast16, qui servait à saboter les tests d'armes nucléaires, ont été probablement vis à l'Iran, était probablement concomitant avec Stuxnet et non précédent Stuxnet. Donc, on est dans un environnement où il y a eu plusieurs techniques. Rétrospectivement, c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant aussi de voir que les attaques en cyber existent depuis beaucoup plus longtemps qu'on pense et que ce qu'on voit actuellement à cause des guerres actives ne sont qu'une représentation visible des attaques qui se passent réellement et comment tous ces acteurs-là agissent et ont des effets sur ce qui se passe. La section bleue, Signal va modifier son visuel pour limiter le phishing parce qu'il y a beaucoup d'attaques sur ce système-là. Donc, la popularité du système fait que maintenant les attaquants essaient de casser pour aller récupérer. Le protocole lui-même est robuste, c'est les gens qui l'utilisent peuvent se laisser tromper par des situations, par l'ajout de nouveaux appareils, par des messages qui laissent l'impression d'aller ailleurs. Donc, il va y avoir des modifications principalement d'interface qui vont aider les utilisateurs à déceler des techniques malveillantes visées vers eux, par exemple. La complexité est un problème en cybersécurité ou nouveau infrastructure. Le texte est intéressant en disant que la plupart des admins systèmes maintenant n'ont plus de compréhension sur la globalité de leur réseau. C'est une situation qui est très troublante en soi, sachant que cette complexité-là nous amène à avoir un manque de visibilité. D'un point de vue cyber, le moins on est visible, plus on va avoir des problèmes à répondre à un incident. Comme le quotidien des gens en cyber inclut des incidents ou des mini-incidents ou des amorces d'incidents ou des alertes minimalement. La méconnaissance de l'ensemble de l'infrastructure est un problème. La complexité est un problème. Je ramène toujours à la simplicité quand je suis capable de le faire. Et c'est pas peu de gens sont capables de maintenir en tête une infrastructure très, très complexe et de tous les morceaux de cette ramification-là. Donc, de tenir en compte, donc de toujours essayer de viser à la simplification, voire réduire les problèmes de sécurité, puisque c'est beaucoup plus facile à défendre. Et c'est beaucoup plus facile à répondre en cas d'incident. Donc, de ramener comme ça. Puis je trouve ça intéressant qu'on ramène cette conversation-là maintenant, quand on a eu une explosion de complexité, notamment par les microservices, notamment par Kubernetes, notamment par toutes ces structures-là qu'on est apparu maintenant, qui rajoutent de la complexité et non la réduisent et amènent des problèmes conséquents. Et il faut aussi comprendre que les compagnies qui utilisent ça de façon massive, on va prendre les grands les grandes compagnies technologiques américaines, notamment, qui ont développé et qui utilisent ces composantes technologiques-là, ont le staff généralement suffisant pour être capable de comprendre la portée de tout ça. Mais de l'autre côté, si on va prendre des exemples comme les trois grands cladards, les trois sont dans le même bateau dans ce côté-là. Les systèmes sont tellement complexes dans lesquels ils déploient qu'ils ne savent pas qu'est-ce que ça fait essentiellement. Donc, il n'y a pas une vision globale. On le voit parce que mon expérience est plus là avec M365. Tous ces composants-là sont faits par qui composent le grand écosystème de M365 sont faits par des équipes différentes qui ne comprennent pas nécessairement ce que l'autre équipe fait. Ce qui fait que des fois, il y a des décisions qui amènent à des problèmes de fonctionnement, généralement. Rarement des problèmes de sécurité, heureusement, mais généralement des problèmes de fonctionnement ou d'interopérabilité entre les différents composants. Ce qui fait que ça donne une belle démonstration de cette énorme complexité-là et que celle-ci, elle est contraire ou contre-productive pour la cybersécurité, essentiellement. Dernière nouvelle de cette section-là, la messagerie sécuritaire n'est plus que du chiffrement. Et c'est intéressant cet article-là parce que ça repose sur plusieurs couches de protection. D'ailleurs, Guillaume Ross, notamment, critique beaucoup le signal pour le fait que la portée de ce qu'il protège est limitée justement à son application et pas beaucoup plus loin que ça. Ce qui fait qu'on ne sait pas à qui on parle de l'autre bord. Il y a deux indicateurs qui ne nous sont pas donnés. C'est un exemple. On l'a vu avec le Signal Gate aux États-Unis aussi, que des logiciels tiers peuvent se brancher sur le réseau Signal sans qu'on sache que les données peuvent être extraites du réseau sans qu'on sache selon avec qui on parle, naturellement. Fait que si l'interlocuteur avec qui on parle a des pratiques de sécurité plus faibles, bien on est exposé, nos informations sont exposées à ces pratiques-là qui sont contraires à notre volonté de sécurité. Le protocole lui-même est très bon, le signal lui-même est très bon. C'est l'usage de l'autre côté et d'avoir les signaux qui nous permettent de savoir que notre vis-à-vis a des bonnes pratiques de sécurité, ce qui est un peu plus difficile, et le fait notamment de chiffrer certaines informations en dehors de l'application et toutes les facettes autour. Donc, tout ça est très important. Donc, bref, l'article remet en perspective ça. Bon, l'article sert à vanter les mérites d'une application de type, cela est américaine, mais de type Olvid, que les Français, vous êtes plus familiers. Les Américains ont développé de toute sa part ce même genre d'application. Oui, ça a des avantages. Oui, ça a d'autres choses. Oui, il faut considérer, mais il y a un ensemble de facettes à tout ça qui est très important. Bref, l'article est très intéressant, même s'il est teinté pour ce logiciel-là. Dernière section, insolite d'hiver. C'est essentiellement ce que Adam Shustak mentionne. Je trouve ça très drôle parce qu'il a fait un tout là-dessus. C'est ce qu'on utilise comme expert, comme best practice, c'est un raccourci qui est utilisé pour ne pas faire les recherches nécessaires. Fait que c'est comme un raccourci intellectuel qui est utilisé, puis il en arrive. Fait que bref, il faut faire ça. J'ai réussi à aller assez vite. Je me suis enfergé un peu avec en essayant de parler à cette vitesse-là. Bref, merci d'écouter. Vos commentaires sont toujours super pertinents. J'aime ça quand je vois des événements comme Nordic, ça me permet justement de parler aux gens puis que j'ai des commentaires en personne puis qu'il y a de belles conversations qui, entre autres, sont relatives au podcast, mais pas exclusivement, et qui nous permettent justement d'améliorer le produit pour aller plus loin et de le faire rouler un peu comme ça. Donc, merci et bonne semaine.